Chapitre 14e. Un nouveau champion. L'archidiacre ne revint chez lui qu'au moment du dîner. Il n'était pas question de parler affaires avant cette importante cérémonie. Il semblait être de meilleure humeur que jamais, et il accueillit son beau-père avec la gravité souriante qui lui était habituelle quand il voyait en bon train les choses dont l'accomplissement lui tenait au cœur. « Tout est arrangé, ma chère, » dit-il à sa femme, en se lavant les mains dans le cabinet de toilette, tandis que celle-ci l'écoutait assise dans la chambre à coucher. Rabin a accepté la cure. Il sera ici la semaine prochaine. » Et l'archidiacre se frottait les mains et la figure avec une vigueur qui marquait une vive satisfaction. « Viendra-t-il ici, à Plumstead ? » ?»« Il a promis de passer un mois avec nous pour se rendre compte de ce qu'est sa paroisse. Il vous plaira beaucoup. C'est un gentleman, dans tous les sens du mot, et un homme des plus agréables. Il est un peu bizarre, n'est-ce pas ? » ?»«
Oui, il est quelquefois un peu excentrique. » Mais il n'y a rien en lui qui ne doive vous plaire. Je ne sais vraiment pas ce que nous ferions sans lui. Il sera pour moi et près de moi un précieux auxiliaire. Si quelqu'un est capable d'abattre le Slope, c'est Arabin.
Le révérend Francis Arabin était un agrégé de Lazarus, l'élève favori du grand docteur Gwynne, un partisan déterminé de la haute église, qui avait failli au début de sa carrière faire le plongeon dans les eaux du papisme. Poète, écrivain batailleur, prêtre éloquent, esprit railleur, bizarre, plaisant, énergique, et comme l'avait dit avec insistance l'archidiacre, un parfait gentleman. Il venait d'être présenté pour la cure de Saint-Évold par le docteur Grantly, à qui son titre d'archidiacre donnait le droit de conférer ce bénéfice. Saint-Évold touchait à Barchester, la jolie église de cette paroisse, et la cure ne sont guère qu'à un mille de la ville. Saint-Évold n'est pas un bénéfice d'un gros revenu. Il vaut au plus 300 ou 400 livres par an. Il est généralement donné à un prêtre attaché au cœur de la cathédrale. Mais quand il devint vacant, l'archidiacre comprit qu'il y avait nécessité pour lui à en pourvoir, pour renforcer son parti, un vigoureux champion de ses idées. Il avait soumis à ses confrères le nom de M. Arabin, et tous avaient été d'avis que si M. Arabin voulait accepter Saint-Évold, ce choix serait le plus heureux que l'on pût faire. Si M. Arabin voulait accepter Saint-Évold, c'était là qu'était la difficulté. M. Arabin avait une grande situation dans le monde clérical. Il n'était pas riche, sans doute, car il n'avait que son traitement d'agrégé. Mais il ne recherchait pas l'argent, il n'était pas marié. Il employait presque tout son temps à discuter, soit dans les journaux, soit dans des réunions, les privilèges et les pratiques de l'Église à laquelle il appartenait. On pouvait se demander si M. Arabin consentirait à accepter une modeste paroisse. Le docteur Grantly avait pris la peine de se rendre à Oxford, et avec l'aide du docteur Gwynne, avait persuadé à ce prêtre distingué que son devoir l'obligeait à venir à Barchester. D'ailleurs, M. Arabin avait déjà soutenu dans les journaux des controverses longues et acharnées contre M. Slope. Les deux combattants ne s'étaient jamais vus, mais ils s'étaient fort maltraités par écrit et s'étaient réciproquement appliqués les qualifications les moins courtoises. M. Arabin avait donc accepté la cure. Peut-être avait-il quelque satisfaction à se rapprocher de son adversaire. Il avait été convenu qu'il prêterait son concours pour chasser l'ennemi, ou tout au moins le réduire au silence. Il continuerait à demeurer à Oxford, et aurait un vicaire à Saint-Évold, mais il donnerait à Barchester le plus possible de son temps. Cette promesse combla de joie l'archidiacre. Et un autre motif de satisfaction fut qu'il allait ainsi forcer l'évêque Proudie à donner un bénéfice, sous le nez de son chapelain, à l'ennemi de ce même chapelain. Pendant tout le dîner, l'archidiacre eut un visage radieux. Il mangea bien, but sec, raconta avec entrain ses négociations à Oxford, et ne tarit point ses éloges sur le compte de M. Arabin. « M. Arabin est-il marié, papa ?» demanda Griselda. « Non, ma chère, un agrégé n'est jamais marié. Est-il jeune, papa ?» « Il a environ 40 ans, j'imagine. »«
Oh !»
fit Griselda. L'archidiacre aurait dit 80 ans, que la jeune fille n'aurait pas trouvé M. Arabin beaucoup plus vieux. Quand le docteur Grantly et M. Harding furent restés seuls à table, celui-ci raconta son affaire. Cette désagréable nouvelle n'enleva à l'archidiacre rien de sa bonne humeur, mais elle aviva encore son ardeur belliqueuse. « Il ne peut pas faire cela, » répéta à plusieurs reprises le docteur Grantly, quand son beau-père lui énumérait les conditions que l'on prétendait imposer
au nouveau conservateur de l'hospice. Il n'en a pas le droit. Il ne peut changer la nature de l'emploi.
Qui ? Demanda M. Harding.
Ni l'évêque, ni le chapelain, ni même la femme de l'évêque, qui, j'en réponds, veut avoir la haute main dans toutes ces affaires-là. Personne au palais n'a le droit de faire d'un administrateur un maître d'école.
Mais l'évêque a le droit de nommer qui il veut et...
Je n'en sais rien, mais qu'il l'essaye, et il verra ce que diront les journaux. Cette fois au moins, nous aurons la voix publique de notre côté. Mais le Proudie a beau être un âne, il n'ira pas se mettre la tête dans un nid d'abeilles.
Cette idée de la presse fit faire la grimace à M. Harding. Il avait assez de ce genre de publicité et ne tenait pas du tout à être une seconde fois dénoncé comme un monstre ou loué comme un martyr. Il fit observer doucement qu'il espérait bien que les journalistes ne s'empareraient pas une fois encore de son nom et insinua que le mieux serait peut-être qu'il retirât sa candidature.
« Je deviens vieux, » dit-il, « et après tout, je ne sais si je suis propre à entreprendre de nouveaux devoirs. »«
De nouveaux devoirs ?» s'écria l'archidiacre.
« Mais je vous dis qu'il ne peut être question de nouveaux devoirs. »«
Peut-être même les anciens, » dit M. Harding. « Il vaut mieux pour ma tranquillité que je reste ce que je suis. » Il avait toujours devant les yeux M. Slope, balayant la routine et les routiniers.
L'archidiacre but son verre de Bordeaux et fit appel à toute l'autorité, à toute l'énergie de sa parole.
« J'espère, » dit-il,
« que vous ne serez pas assez faible pour vous laisser détourner par M. Slope de ce que vous savez être l'accomplissement d'un devoir. Votre devoir est, vous le savez, de reprendre votre situation à l'hospice maintenant qu'une décision du Parlement a fixé le traitement et fait disparaître toutes les difficultés qui vous avaient amené à vous démettre. Cela, vous ne pouvez le nier.
Et dû votre timidité vous empêcher aujourd'hui de rentrer en fonction, votre conscience dans l'avenir ne vous pardonnerait pas. » Il suspendit son discours pour pousser la bouteille vers son interlocuteur.
« Votre conscience ne vous pardonnerait jamais, » reprit-il. « Vous avez résigné votre emploi à cause de scrupules que j'ai respectés sans les partager. Tous vos amis les ont respectés et vous êtes sortis de votre vieille maison de l'hospice aussi considérée qu'appauvrie. Ce qu'ils attendent maintenant, c'est que vous y rentriez. »
Le docteur Gwynne me le disait l'autre jour.
« Le docteur Gwynne ne sait pas combien j'ai vieilli depuis qu'il m'a vu. »«
Vieilli ?
Folie ! »
dit l'archidiacre.
« Vous ne vous étiez pas senti vieilli avant le jour où vous avez entendu au palais les sornettes que vous a impudemment débitées ce faquin. »«
Si je vis jusqu'en novembre, j'aurai 65 ans. »«
Et 75 si vous vivez jusqu'en novembre, 10 ans après. »«
Et à cet âge-là, vous serez en état de rendre autant de services qu'il y a 10 ans. »«
Au nom du ciel, n'allez point chercher de prétexte. « Votre âge en est un. »«
Mais vous ne buvez pas votre vin ?»«
Oui, ce n'est qu'un prétexte. Le fait est que vous avez peur du Slope et que vous vous résigneriez à une pauvreté relative et aux privations plutôt que d'en venir aux mains avec un homme qui, si vous le laissez faire, vous mettra sous ses pieds. »«
Je l'avoue, je n'aimerais pas en venir aux mains si je pouvais faire autrement. »«
Moi non plus. Mais il y a des cas où l'on ne peut faire autrement. » L'intention de cet homme est de vous amener à refuser l'hospice pour y mettre une créature à lui, pour faire montre de son pouvoir, et pour nous insulter tout en vous insultant vous, dont la cause et la dignité sont intimement liées à celle du chapitre.
Vous devez à vos confrères de lui résister en cela, alors même que vous n'auriez aucun souci de votre intérêt. Mais j'espère, pour votre honneur, que vous aurez assez de sang dans les veines pour ne pas vous laisser tirer le pain de la bouche, sans tenter au moins quelque résistance.
M. Harding n'aimait pas qu'on semble à douter qu'il eût du sang dans les veines. Ses paroles le piquèrent.
« Je ne sais, dit-il, si le vrai courage consiste à se chamailler pour l'argent.
Si dans notre misérable monde, les honnêtes gens ne se chamaillent pas pour l'argent, il ira aux mains des malhonnêtes gens et je ne vois pas ce qui gagnera la cause de la vertu. Non, il nous faut user des moyens que nous avons.
Si vous poussiez votre argument à l'extrême, il nous faudrait abandonner jusqu'au dernier shilling du revenu que possède l'Église,
et je présume que vous n'en êtes pas encore au point de prétendre que ce sacrifice affermirait l'Église. »
L'archidiacre remplit son verre et le vida, portant avec respect un toast silencieux au maintien assuré permanent de ses biens temporels qui lui tenaient si fort au cœur.
« Je crois qu'un prêtre devrait éviter les querelles avec son évêque, » dit M. Harding.
« Je le pense aussi. » Mais l'évêque ainsi que le prêtre a le devoir de les éviter. Voici, mon cher ami, ce que je vais faire. Si vous me le permettez, je verrai l'évêque à ce sujet.
soyez tranquille, je ne vous compromettrai point. Mon opinion est que toutes ces sottises d'école du dimanche et de sermons sont nées dans le cerveau de Slope et de Mrs. Proudie, et que l'évêque n'en connaît rien. L'évêque ne peut refuser de me voir, et je saisirai le moment où il n'aura près de lui ni son chapelain ni sa femme. La conclusion sera qu'il vous enverra la nomination sans condition. » Ainsi furent réglées les choses entre le gendre et le beau-père. M. Harding était venu demander un avis. Il se crut obligé de suivre celui qu'on lui donnait. D'ailleurs, il savait d'avance que l'archidiacre ne voulait pas entendre parler de renonciation. Et, tout en exposant ses propres vues avec une parfaite bonne foi, il était préparé à céder. Ils passèrent dans le salon, tous deux de joyeuse humeur, et la soirée se passa en discussion et en hypothèse sur la guerre prochaine d'Arabin contre Slope. L'archidiacre se frottait les mains et se félicitait du succès de sa dernière manœuvre à Oxford. Il ne pouvait descendre en personne dans l'arène contre Slope, mais Arabin n'aurait pas ses scrupules. Arabin était entre tous l'homme qu'il fallait pour conduire à bien une semblable entreprise. La bonne humeur de l'archidiacre se soutint jusqu'au moment où, la tête sur l'oreiller, Mrs. Grantly lui raconta, avec sa propre appréciation, ce qui se passait à Barchester. Il eut un soubresaut. Les dernières paroles qu'il prononça ce soir-là furent les suivantes. « Si elle fait cela par le ciel, je ne lui parlerai de ma vie. Elle m'a déjà mis une fois dans la boue, mais cette fois, ce serait dans l'ordure. » Et l'archidiacre, violemment ému, fut pris d'un tremblement qui fit gémir et crier le lit. Il faut le dire, la veuve Bold était indignement traitée par les siens. Elle avait parlé trois ou quatre fois à l'ennemi et s'était déclarée disposée à faire la chasse dans une école du dimanche. À cela se bornaient ses fautes en ce qui regardait M. Slope, pauvre Eleanor. Le lendemain matin, M. Harding retourna à Barchester sans qu'on eût parlé en sa présence des relations de M. Slope avec sa seconde fille. Mais il remarqua au déjeuner que l'archidiacre était moins cordial avec lui que le soir précédent.